Il faisait de nouveau nuit quand la nouvelle arriva. Un homme revint des guets en hâte, disant qu'une armée était sortie de Minas Morgul et marchait déjà sur Osgiliath. Puis, des régiments du sud étaient venus grossir ses rangs, des Aladrim, grands et cruels. « Et nous avons appris, poursuivit le messager, que le noir capitaine est de nouveau à leur tête. La peur qu'il inspire l'a devancé au-delà du fleuve. » Ainsi s'acheva, sur ces mots de funeste augure, le troisième jour depuis l'arrivée de Pipin à Minas Tirith. Peu d'hommes se reposèrent, car l'espoir était mince que Faramir, même lui, pût tenir longtemps les guets. Le lendemain, bien que l'obscurité fût à son comble et ne grandît pas davantage, elle pesait plus lourdement que jamais sur le cœur des hommes, et une grande peur les tenaillait. D'autres mauvaises nouvelles ne tardèrent pas à arriver. L'ennemi avait gagné le passage de l'Anduin. Faramir se repliait sur les murs du Pélénor, ralliant ses hommes au fort de la chaussée. Mais ses adversaires étaient 10 fois plus nombreux. « S'il parvient à se replier sur le Pélénor, ses ennemis seront sur ses talons, » dit le messager. « Ils ont payé chèrement le passage des eaux, mais pas autant que nous l'espérions. Le plan a été bien conçu, nous le voyons. Voilà un bon moment qu'ils s'affairaient secrètement à construire une multitude de radeaux et de péniches à Osgiliath Est. Ils ont traversé dans un grand fourmillement. Mais c'est le noir capitaine qui nous tient en échec. Rares sont les hommes capables d'endurer la seule rumeur de sa venue. Ses propres serviteurs tremblent devant lui et se donneraient la mort s'il le leur ordonnait.
« Dans ce cas, ma présence sera plus utile là-bas, » dit Gandalf. Et il s'en fut aussitôt à cheval, son éclat blanc ayant tôt fait de disparaître à la vue. Et durant toute cette nuit, Pipin, seul et incapable de dormir, se tint sur le rempart, tournant ses regards vers l'est. Les cloches du matin, dérisoires dans les ténèbres persistantes, venaient à peine de retentir lorsqu'il vit monter au loin des flammes, d'un bout à l'autre des espaces sombres où s'élevaient les murs du Pélénor. Les guetteurs crièrent haut et fort et tous prirent les armes dans la cité. À présent, un éclair rouge venait de temps à autre, tandis que des sourds grondements montaient un à un dans l'air sourd.
« Ils ont pris le mur !» criaient les hommes. « Ils le font sauter pour ouvrir des brèches ! Ils arrivent !»«
Où est Faramir ?» s'écria Bérégon d'une voix consternée. « Ne me dites pas qu'il est tombé !»
Gandalf revint avec les premières nouvelles. Il parut en milieu de matinée avec une poignée de cavaliers escortant une file de charrettes. Elles étaient remplies de blessés, tous ceux qui avaient pu être sauvés de la ruine des forts de la chaussée. Dès son arrivée, il se rendit auprès de Denethor. Le seigneur de la cité s'était retiré avec Pipin dans une chambre haute au-dessus de la salle de la Tour Blanche. Et par les fenêtres sombres au nord, au sud et à l'est, il regardait de ses yeux noirs, comme pour percer les ombres du destin qui le cernait tel un anneau. Il scrutait le nord le plus souvent, s'arrêtant parfois pour écouter, comme si son oreille avait pu entendre, par le truchement d'un art ancien, le tonnerre des sabots au loin sur la plaine.
« Faramir est-il rentré ? »
demanda-t-il.
« Non, » dit Gandalf, « mais il était encore vivant quand je suis parti. Néanmoins, il est déterminé à rester auprès de l'arrière-garde, de crainte que la retraite sur le Pélénor ne tourne à la débandade. Il pourrait réussir à maintenir les rangs assez longtemps, mais j'en doute. Il est devant un trop puissant adversaire, car il est venu celui que je redoutais.
« Pas le Seigneur Sombre ? »
s'écria Pipin, oubliant dans son épouvante la place qui était sienne. Denethor eut un rire amer.
« Non, pas encore, maître Pérégrin. S'il vient, ce sera uniquement pour triompher de moi quand tout sera conquis. En attendant, il laisse les autres lui servir d'armes. Tous les grands seigneurs font de même, maître demi-homme, s'ils sont sages. Pourquoi sinon resterais-je dans ma tour à réfléchir, à observer et à attendre, dépensant même mes fils ? Car je puis encore manier le glaive. »
Il se leva, rejetant sa longue cape noire derrière lui,
et voici,
Il apparut alors vêtu de mailles et ceint d'une épée longue à grande poignée dans un fourreau noir et argent.
« Ainsi je vais et ainsi je dors, voici maintenant de nombreuses années, » dit-il, « de crainte que la vieillesse me donne encore mou et timoré. » Toujours est-il que sous la direction du seigneur de Barad-dûr, le plus redoutable de ses capitaines s'est déjà rendu maître de vos murs extérieurs,
dit Gandalf.
Roi d'Angmar, au temps jadis, sorcier spectre de l'anneau, seigneur des Nazgûl, fléau de terreur à la main de Sauron, ombre de désespoir.
Eh bien, Mithrandir, vous aviez donc un adversaire à votre mesure,
dit Denethor.
Pour ma part, je sais depuis longtemps qui est le grand capitaine des armées de la Tour Sombre. Est-ce là tout ce que vous êtes revenu me dire? Ou serait-ce que vous vous êtes retiré parce que vous n'êtes pas de taille?
Pipin trembla, craignant que Gandalf n'eût été piqué au vif. Mais sa peur était infondée.
« C'est bien possible, » répondit Gandalf à mi-voix.
« Mais notre duel est encore à venir. » Et si l'on en croit les mots de la tradition, il ne tombera pas par la main d'un homme, et le sort qui l'attend est caché à la vue des sages. Quoi qu'il en soit, le capitaine du désespoir ne s'est pas encore porté en avant. Il s'en tient plutôt à la sagesse que vous évoquiez, restant sur les arrières et menant ses esclaves dans une terreur folle devant lui. Non, si je suis revenu, c'est pour sauver les blessés qui peuvent encore être guéris, car le ramasse est partout défoncé, et l'armée de Morgul fera bientôt irruption en maints endroits. Et surtout, je suis venu vous dire ceci. Bientôt on se battra dans les champs. Il faut préparer une sortie. Qu'on envoie des hommes monter. Notre bref espoir réside en eux. Car il n'est qu'une chose dont l'ennemi paraît encore assez dépourvu. Il a fort peu de cavaliers.
Ce qui est aussi notre cas. L'armée du Rohan ne pourrait arriver à un moment plus opportun,
dit Denethor.
D'autres risquent d'arriver avant cela, dit Gandalf. Des fugitifs de Caerandros nous ont déjà rejoints. L'île est tombée. Une autre armée est sortie par la Porte Noire et a franchi le fleuve par le nord-est.
D'aucuns vous ont accusé, Mithrandir, de prendre plaisir à dispenser les mauvaises nouvelles,
dit Denethor.
Mais pour moi, ces choses n'ont plus rien de nouveau. Elles m'étaient connues dès hier au soir. Quant à une éventuelle sortie, j'y avais déjà réfléchi. Descendons.
Les heures passèrent. Enfin, les guetteurs des murs aperçurent la retraite des compagnies extérieures. De petites bandes de guerriers épuisés, souvent blessés, arrivèrent d'abord en grand désarroi. Certains couraient éperdus comme s'ils étaient poursuivis. À l'est, des flammes dansaient au lointain et semblaient s'étendre par endroits sur la plaine. Des maisons et des granges brûlaient. Puis, à maints endroits, de petites rivières de feu se mirent à affluer, sinuant dans la pénombre, convergeant vers la ligne dessinée par la large route qui menait de la porte aux ruines d'Osgiliath.
« L'ennemi, » murmurait-on. « Le mur est renversé. Les voilà qui se déversent à travers les brèches. Et ils portent des torches, on dirait. Où sont nos hommes ?»
Le soir devait bientôt tomber d'après l'heure, et la lumière était si faible que même les plus clairvoyants sur les murs de la citadelle ne discernaient pas grand-chose au milieu des champs, sinon les incendies qui ne cessaient de se multiplier et les traînées de feu qui se faisaient plus longues et plus rapides. Enfin, à moins d'un mille de la cité, une masse d'hommes plus ordonnés se présenta à la vue. Ils marchaient et ne couraient pas, toujours en rang serré. Les guetteurs retinrent leur souffle.
« Faramir doit être du nombre, » dirent-ils. « Il maîtrise hommes et bêtes. Il va s'en tirer. »
À présent, le gros de la retraite ne devait pas être à plus de 2 furlongs. Au fond, dans la pénombre, un petit groupe de cavaliers arriva au galop. C'était tout ce qui restait de l'arrière-garde. Ils se retournèrent une fois de plus aux abois, faisant face aux traînées de feu qui approchaient. Puis soudain s'éleva une clameur féroce. des cavaliers ennemis surgirent en trombe, les traînées de feu devinrent d'impétueux torrents. Des orques, rang sur rang, portant des brandons, et de sauvages sudrons aux bannières rouges et aux cris barbares, montant à l'assaut, les débordant. Et du ciel charbonneux, fondirent les ombres ailées avec un cri perçant, les Nazgûls plongeant sur leurs victimes. La retraite se changea en déroute. Déjà les hommes se séparaient, fuyant éperdus, jetant leurs armes, criant de terreur, tombant au sol. Une trompette retentit alors dans la citadelle et Denethor ordonna enfin la sortie. Serrés dans l'ombre de la porte et à l'extérieur des hauts murs, ils avaient attendu son signal. Des hommes montaient, tous ceux qui restaient dans la cité. Ils s'élancèrent à présent, se formèrent, prirent le galop et chargèrent avec un grand cri. Et des remparts, un autre s'éleva en réponse, car sur les premiers rangs étaient les chevaliers cygnes de Dol Amroth, avec à leur tête le prince et sa bannière bleue.
« Amroth pour le Gondor !» s'écrièrent-ils. « Amroth au secours de Faramir !»
Comme la foudre, ils s'abattirent sur l'ennemi de part et d'autre de la retraite. Mais un cavalier les dépassa tous, vif comme le vent sur l'herbe. Scadufax le portait. Son éclat blanc révélait une fois de plus, tandis que de sa main levée, une lumière jaillissait. Les Nazgûls lâchèrent un cri aigu et s'éloignèrent, car leur capitaine n'était pas encore venu défier l'éclat blanc de son adversaire. Les armées du Mordor, resserrées autour de leur proie, prises à l'improviste dans leur folle cavalcade, se dispersèrent alors comme des étincelles dans un grand coup de vent. Un élan d'acclamation souleva les compagnies extérieures qui se retournèrent contre leurs poursuivants. Les traqueurs devinrent les traqués. La retraite devint un assaut. Le champ de bataille fut bientôt jonché d'orques et d'hommes terrassés, et les effluves de leurs torches fumantes, partout jetées au sol, s'élevèrent en de noirs tourbillons. La cavalerie poursuivit son avancée. Mais Denethor ne leur permit pas d'aller loin. Certes, l'ennemi était contenu et repoussé pour le moment, mais de grandes forces continuaient d'affluer de l'est. La trompette retentit de nouveau, sonnant la retraite. La cavalerie du Gondor fit halte. Derrière son écran, les compagnies extérieures se reformèrent. Leurs hommes revenaient à présent d'un pas soutenu. Enfin, aux portes de la cité, ils y entrèrent la tête haute. Et la tête haute, les gens de la cité les contemplèrent, criant leurs louanges, mais les cœurs étaient inquiets. Car les compagnies paraissaient réduites de beaucoup. Faramir avait perdu le tiers de ses hommes. Et lui, où était-il? Il fut le dernier de tous. Ses hommes entrèrent, puis les chevaliers montés, et la bannière de Dol Amroth, et enfin le prince lui-même. Et dans ses bras, devant lui sur sa monture, il portait le corps de son parent, Faramir, fils de Denethor, trouvé sur le champ de bataille.
« Faramir ! Faramir !»
crièrent les hommes, pleurant dans les rues. Mais il ne répondit pas, et on le porta jusqu'à son père, le long de la sinueuse route qui montait à la citadelle. Alors même que les Nazgûls se dérobaient devant l'assaut du cavalier blanc, avait volé un trait mortel. Et Faramir, cherchant à repousser un cavalier, un champion du Harad, avait été terrassé. Seule la charge de Dol Amroth l'avait sauvé des sanglantes épées du sud qu'il aurait taillées gisant au sol. Le prince Imrahil porta Faramir à la tour blanche, et il dit « Votre fils est revenu, Seigneur, après de hauts faits d'armes. » Et il raconta tout ce qu'il avait vu. Mais Denethor se leva, contempla le visage de son fils et resta silencieux. Puis, il leur ordonna de préparer un lit dans la pièce, d'y allonger Faramir et de quitter les lieux. Mais lui-même monta seul à la chambre secrète sous le pinacle de la tour. Et nombre de ceux qui levèrent les yeux dans cette direction virent alors une pâle lumière qui jetait des reflets changeants à travers les fenêtres étroites. Mais au bout d'un moment, elle clignota et s'éteignit. Et lorsque Denethor redescendit, il alla trouver Faramir et s'assit à son chevet sans dire un mot. Mais le visage du Seigneur était gris, plus sépulcral que celui de son fils. Ainsi, la cité était enfin assiégée, cernée par un anneau d'ennemis. Le Ramas était en ruine, et tout le Pélénor abandonné à l'adversaire. Les dernières nouvelles de l'extérieur vinrent de fuyards qui arrivèrent par la route du nord avant la fermeture de la porte. C'était tout ce qui restait de la garnison postée à l'endroit où la route de la Norienne et du Rohan entrait dans les terres avoisinantes de la cité. Leur chef était Ingold, celui-là même qui avait laissé entrer Gandalf et Pipin moins de 5 jours auparavant, alors que le soleil se levait encore et que l'espoir renaissait au matin.
« Nous n'avons aucune nouvelle des Rohirrim, » dit-il. « Le Rohan ne viendra plus maintenant. Ou s'il vient, il ne nous sera d'aucun secours. La nouvelle armée dont nous avions eu vent est arrivée avant eux, après avoir traversé le fleuve à Andros, dit-on. C'est une force redoutable. Il y a des bataillons d'orques de l'œil et d'innombrables compagnies d'hommes, des guerriers d'étranges sortes que nous n'avions jamais vus avant. Ils ne sont pas grands mais larges d'épaules, la mine sombre, barbus comme des nains, et ils manient de grandes haches. Ils viennent d'un pays de sauvages probablement, quelque part dans l'immensité de l'Est. Ils tiennent la route du Nord, et maints d'entre eux ont pénétré en Anorien. Les Rohirrim ne pourront passer. »
La porte fut refermée. Toute la nuit, les guetteurs des murs entendirent la rumeur de l'ennemi rôdant à l'extérieur, brûlant arbres et champs, s'acharnant sur tout homme qu'ils trouvaient, mort ou vif, au dehors. Dans l'obscurité, ils ne pouvaient deviner combien avaient déjà traversé le fleuve. Mais quand le matin, ou l'ombre d'un matin, se faufila sur la plaine, on vit que même les peurs nocturnes n'avaient guère exagéré la réalité. La plaine était noire de leur compagnie en marche. Et aussi loin qu'on put voir dans la sombreur du jour, apparaissaient tout autour de la cité assiégée, telle une immonde excroissance fongueuse, de vastes regroupements de tentes, noires ou rouges sombres. Les orques creusaient et creusaient, telles des fourmis, de profondes tranchées formant d'immenses anneaux concentriques, tout juste hors de portée des archers. Et à mesure qu'elles étaient excavées, chacune d'elles se remplissait de feu, sans qu'on pût voir par quel artifice ou sorcellerie ces feux étaient allumés ou alimentés. Ce travail se poursuivit toute la journée sous les regards impuissants des hommes de Minas Tirith. Et dès qu'une partie était achevée, on voyait s'approcher de grands chariots. Et de nouvelles compagnies de l'ennemi ne tardaient pas à installer, chacune derrière la protection d'une tranchée, d'énormes engins destinés au lancement de projectiles. Aucun engin sur les murs de la cité n'était assez gros pour porter aussi loin ou empêcher les travaux. Les hommes en rirent au début, ne craignant pas beaucoup ces machines, car le maître mur de la cité était très haut et fabuleusement épais, bâti avant que le pouvoir et le savoir-faire de Númenor subissent le déclin de l'exil. Et sa face extérieure était semblable à la tour d'Orthanc, dure, sombre et lisse, invulnérable à l'acier ou au feu, indestructible, sinon par quelques convulsions capables d'ébranler le fondement même de ses assises.
« Non, disait-il, nul n'entrera ici, pas même l'innommable, dût-il venir en personne tant que nous vivrons. »
Mais d'autres répondaient, « Tant que nous vivrons, pour combien de temps? Il possède une arme qui a eu raison de maintes forteresses depuis le commencement du monde. La faim. Les routes sont coupées, le Rohan ne viendra pas. » Mais les engins ne gaspillèrent pas leur tir contre ce mur inexpugnable. Ce n'était pas un chef orque, ni un quelconque brigand qui dirigeait l'assaut contre le plus grand adversaire du Mordor. Une puissance et un esprit maléfique le guidaient. Aussitôt en place, parmi les hurlements et les grincements de cordes et de treuils, les grandes catapultes se mirent à tirer à une hauteur prodigieuse, si bien que les projectiles volaient au-dessus des remparts et retombaient avec fracas dans le premier cercle de la cité. Et nombre d'entre eux, par quelque artifice secret, s'enflammaient en vol avant de s'écraser dans la ville. Il y eut bientôt un grand danger d'incendie derrière le mur, et tous ceux qui étaient à disposition s'affairèrent à contenir les flammes qui surgissaient en mains endroits. Et parmi les gros bolides, tomba ensuite une autre grêle, moins dévastatrice mais autrement horrible. Partout dans les rues et les passages derrière la porte, elles s'abattaient comme de petites boules rondes qui ne brûlaient pas. Mais quand les hommes accouraient pour voir ce dont il s'agissait, ils s'écriaient ou bien pleuraient. Car l'ennemi jetait dans la cité les têtes de tous ceux qui étaient tombés à Osgiliath ou sur le ramasse,
ou dans les champs. Elles étaient sinistres à voir, car certaines avaient été écrasées, rendues informes ou cruellement tailladées, mais beaucoup d'autres présentaient encore des traits reconnaissables qui semblaient faire état d'une mort douloureuse, et chacune était marquée de l'odieux insigne de l'œil sans paupières. Mais toutes défigurées et avilies qu'elles étaient, il arrivait souvent qu'un homme pût revoir le visage de quelqu'un qu'il avait connu, qui avait fièrement marché en armes ou labouré les champs, où était rentré un jour de vacances des vertes vallées des collines. Les hommes brandissaient vainement le poing devant les adversaires impitoyables qui s'entassaient devant la porte. Ceux-ci n'avaient que faire des malédictions, et ils ne comprenaient pas la langue des hommes de l'Ouest, criant de leurs voix éraillées comme des bêtes et des charognards. Mais il ne resta bientôt plus grand monde à Minas Tirith pour s'élever contre les armées du Mordor, car le seigneur de la Tour Sombre avait encore une autre arme, plus rapide que la faim, la terreur et le désespoir. Les Nazgûl revinrent. Leur sombre seigneur se levait et déployait toute sa puissance. Partant, leur voix, n'étant que l'expression de sa volonté et de sa malveillance, était empreinte de maléfices et d'horreur. Ils tournoyaient incessamment au-dessus de la cité comme des vautours criant après la chair des malheureux. S'ils restaient hors de vue et hors de portée de tir, ils étaient toujours présents et leur voix mortelle déchirait l'air. Elle devenait toujours plus effroyable, non pas moins, à chaque nouveau cri. Et bientôt, les plus courageux se jetaient au sol quand la menace cachée les survolait. Ou bien, ils restaient debout, laissant tomber leurs armes de leurs mains inertes, cependant que le noir engouffrait leur esprit. Et ils ne pensaient plus à la guerre, mais seulement à se cacher, à ramper et à mourir.